Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous écoutez sur les ondes FM en 107.5 ou en podcast sur le site internet www.rdwa.fr. Aujourd'hui, dans le cadre des élections départementales 2021, pour la Drôme, donc, nous recevons, et pour le canton du Diois principalement, nous recevons donc au studio Laura Marchelli. Bonjour.
Bonjour.
Ensuite, nous avons à ses côtés Monsieur Cyril Naudin. Bonjour.
Bonjour.
Après, Jacques Suchel.
Bonjour.
Et Messaline Mogard.
Bonjour.
Bonjour tous. Alors, vous êtes ici pour nous parler de votre candidature au sein de la liste qui s'intitule « Ensemble à gauche pour la Drôme ». Alors, « Ensemble à gauche », c'est un cas de figure un petit peu, comment dire, un peu ambigu. Il y a plusieurs gauches qui se présentent à ces élections. Comment vous vous situez, vous, par rapport à l'autre liste d'opposition ?
La liste Ensemble à gauche pour la Drôme, soutenue par Génération Climat et la France Insoumise, c'est une liste de gauche engagée, sincère. Voilà. Comment on se base par rapport à l'autre liste qui est Parti Socialiste, ELV et divers petits groupements. Écoutez, si on dit que le PS est à gauche, pourquoi pas ? Si on dit que ELV est à gauche, pourquoi pas ? Je ne crois pas que ce soit des partis ou mouvements qui soient vraiment de ce côté-là. Après, il y en a qui sont très bien, il n'y a pas de problème. Mais pour moi, c'est plutôt du centre.
Oui, on a décidé de se présenter tous les quatre pour défendre un programme qui soit vraiment social et vraiment écologique. Et qui ne soit pas... Soit pas juste dans un titre sous une étiquette de gauche ou écologique et qui ne défendent au final dans leurs actions peu le social et l'écologie.
Donc, comme disait Jacques, c'est une constitution de la France Insoumise et Génération Climat. On connaît tous la France Insoumise. Insoumise à quoi, d'ailleurs ?
Très bonne question. C'est en fait, on parle plutôt d'État, d'État d'être. Nous sommes France Insoumise propose les constituantes citoyennes et nous sommes des citoyens pour les citoyens, donc nous avons vraiment envie qu'en fait ce soit le commun et donc l'avenir en commun qui a été écrit par de nombreux citoyens pour justement se dégager du pouvoir comme il est écrit actuellement. Donc nous voulons résoudre, enfin dire aux gens qu'en fait c'est de la politique, mais de la politique autour de nous, ce qu'on fait dans l'action autour de soi, pour rencontrer les gens, pour faire ensemble, et puis faire ce qu'il faut faire pour nous. Voilà.
Surtout qu'aujourd'hui, on est quand même dans une politique qui nous impose, qui nous soumet, qui s'est bien éloignée du principe de démocratie. Donc c'est en ça qu'on dit insoumis.
Et Génération Climat, donc, vous voudriez la présenter un peu, ce mouvement ?
Génération Climat, c'est des jeunes qui se sont levés pour le climat il y a 3 ans, qui ont fait les marches pour le climat en France et dans le monde, à la suite de l'appel de Greta Thunberg pour interpeller les politiques sur le fait de mettre en place une vraie politique écologiste parce que la planète est en train de mourir, on le constate tous. Voilà. Et ce mouvement a été notamment initié par des lycéens de Valence qui avaient 16 ans à l'époque, qui en ont 19 aujourd'hui, donc qui sont constitués en tant que parti politique avec à leur tête Matteo Vicente Et voilà, ils rejoignent la France Insoumise sur tout l'aspect bifurcation écologique qui est développé dans les programmes tant au niveau national que régional et démocratique. Et c'est la raison pour laquelle ils nous soutiennent également sur toutes nos candidatures départementales.
Avant de continuer, nous allons vous passer auprès de chacun de vous afin de vous présenter donc, et puis de signifier votre engagement au sein de ce mouvement de la France Insoumise et aussi de cet engagement pour la politique à venir pour le conseil départemental. À commencer par Laura, par exemple.
Oui, donc je m'appelle Laura Marchelli, j'ai 34 ans. Je suis arrivée dans le DIY il y a 6 ans avec ma fille. J'ai travaillé auprès des enfants principalement, dans les écoles maternelles. J'ai fait de la garde d'enfants, de l'animation au VVF. Je me suis impliquée dans la crèche associative de DI, j'ai été coprésidente. Et c'est par ce biais-là que j'ai pu me mettre en lien avec les politiques au sein de la communauté de communes qui a la compétence petite enfance, puis la mairie et d'autres intervenants institutionnels. Et petit à petit, je me suis prise au goût de m'intéresser à la vie locale et à la réalité de ce que peut être la politique au niveau local et des vraies actions qui peuvent être menées en ce sens. En plus de ça, j'organise depuis plus d'un an des opérations de nettoyage de la rivière. Voilà, on a fait au-dessus du boulodrome à Die jusqu'à Saillant. On est assez surpris à chaque fois de la quantité de déchets qu'on peut y trouver. Ça va des déchets usagés, bouteilles de bière, mégots, canettes en tout genre, à des déchets industriels et artisanaux comme de l'amiante, des plaques de cuivre, du gravat. Voilà, donc... C'est des actions citoyennes, je communique par les réseaux sociaux, des affiches et on est toujours très, très motivés. Il y a une grosse synergie qui se met en place et du coup c'est chouette parce qu'une fois que les gens sont venus participer à ça, ça leur fait se rendre compte réellement d'une action concrète avec derrière des résultats si on peut dire. Là j'ai suspendu pour l'été parce qu'il va y avoir une grosse fréquentation au niveau de la rivière et on verra à la fin de l'été les nouveaux déchets entre guillemets qui auront été laissés. Mon engagement du coup c'est comme je le fais dans ma vie professionnelle et dans ma vie personnelle, c'est de m'investir à 100% et de travailler à fond les dossiers sur lesquels je veux travailler, d'interpeller les gens s'il faut les interpeller et je serai présente pour écouter à chaque fois que ce sera nécessaire.
Merci. Je passe donc la parole ensuite à Cyril Naudin.
Bonjour. Donc je me présente. Je suis Cyril Naudin. Je m'appelle Cyril Naudin. J'ai 48 ans. J'ai deux enfants. Je suis arrivé sur la commune du Livois en 2014 et je suis issu de l'agriculture au départ dans le Haut-Livois. J'ai participé en 2014. En tant qu'administrateur de la corderie pendant quelques années. Puis ensuite, j'ai été administrateur de l'association Les Potagers Rares, ancien au jardin ouvrier, qui était une association qui cultivait en bio, en résonance derrière d'aider les minima sociaux. J'ai été aussi administrateur un an bénévole à l'espace social de la ville de Die. Ensuite, j'ai été accueillant au CCS de la ville de Die. Je m'occupais donc d'accueillir et orienter les personnes en grande fragile et en grande précarité. Ensuite, j'ai dans mon parcours passé un BPRE en 2009, qui était un brevet professionnel de un brevet professionnel d'exploitant et responsable agricole. Et puis, aujourd'hui, je suis artisan à Die. J'ai une micro-entreprise dans le domaine qui était au départ ma première formation, c'est-à-dire la prothèse dentaire.
Ensuite, je passe la parole à Jacques Suchel.
Bonjour et merci à Air d'Ivoire et à toi Yves de nous recevoir. Donc je m'appelle Suchel Jacques, je suis de métier carreleur mosaïste. J'ai travaillé auprès d'handicapés physiques et mentaux. J'ai été aussi créateur de magasins saisonniers, de snacks et de magasins de produits locaux et artisanaux. Voilà, dans la région, j'ai aussi travaillé jusqu'au Corona dans un restaurant bio de Die. Tout ça s'est arrêté en octobre grâce au confinement. Et depuis 8 mois, comme beaucoup de gens, on ne peut plus travailler. Voilà. Je me suis engagé en politique en 2016, et suite aux nombreuses alertes climatiques et environnementales. J'ai milité aux côtés de Greenpeace, je suis de près la coordination des appels pour une paix juste au Proche-Orient, la CAPJO. Je suis aussi de très près le comité d'Oxford pour la lutte contre la famine, Oxfam. Je participe et j'essaie de diffuser un maximum d'informations sur des collectifs comme Extinction, Rébellion, Gilets jaunes, plus localement la Gare à nous, les Tulipes Sauvages, etc. Et si je ne suis pas toujours directement impliqué dans les instances collectives ou associatives, je participe depuis longtemps et très longtemps même, dès que je peux appuyer leurs revendications, participer à leurs manifestations. Voilà. Les luttes environnementales, sociales, culturelles, démocratiques, pour moi, sont une évidence. On a beaucoup de choses à refaire, et ça rejoint ce que tu nous disais tout à l'heure, Yves, par rapport à qu'est-ce que c'est que d'être insoumis. C'est justement ça, c'est de repenser en fait la société par rapport à l'environnement, par rapport au social, par rapport à la culture et aussi par rapport à la démocratie. Voilà, on a beaucoup, beaucoup de choses à refaire. Voilà, si on gagne au département et qu'on arrive à enlever la République En Marche du secteur, un sénateur La République En Marche, ça serait une énorme victoire et je crois qu'on peut le faire. Et nous, on est engagés auprès de tellement de monde et sur le terrain, beaucoup de gens nous connaissent. On est des gens très très accessibles. Voilà, et on se battra dans toutes les compétences du département pour faire avancer les idées collectives, culturelles, associatives, écologiques. Enfin bon, je ne vais pas refaire tout parce qu'il y a beaucoup de choses avec des valeurs, quoi. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on est engagé auprès de valeurs vraiment fortes et qu'on ne laissera rien passer.
Merci Jacques. Ensuite, nous terminons avec Messaline Mogar.
Alors, moi, j'ai principalement travaillé dans les métiers d'aide à la personne. C'est ce qui m'a le plus occupé là dans mon parcours, puisque j'ai fait ça 10 ans, principalement en tant qu'aide à domicile. En parallèle d'une vie d'un parcours dans les métiers du spectacle. Donc il y a pour moi eu ces deux vies en parallèle, d'accompagnement à la personne et aussi tout ce qui est réseau culturel. Et en 2013, j'ai décidé de reprendre des études. Je me suis formée en tant que praticienne naturopathe. Puisque la naturopathie, on parle de santé naturelle. C'est à la fois, on peut être proche de la personne, accompagnée, et c'est aussi politique, puisque faire en sorte de se prendre en charge d'une façon naturelle, c'est en lien avec l'écologie, que ce soit via l'alimentation, etc. Enfin bon, je ne vais pas rentrer plus loin dans ce sujet-là. Donc, je suis sur plusieurs causes déjà depuis très longtemps, dans tout ce qui est mouvement social, parce que pour moi, effectivement, la solidarité, c'est fondamental, et l'écologie aussi. Donc, je suis présente sur les luttes contre les grands projets inutiles, hein, que ce soit, par exemple, la ZAD de Lyon sur OL Land, sur ce deuxième stade de foot qui a été créé et qui a décimé toute une partie d'un territoire vert, réserve d'eau, etc. Dernièrement, je suis sur l'occupation des lieux culturels, notamment sur le théâtre de Die et cinéma. J'ai fait de l'information à la population ces dernières années sur divers sujets. On a pu me voir au sujet du Linky, de la 5G. Voilà, donc je participe à pas mal de choses en général, le droit des femmes avec la manifestation du 8 mars qu'on a pu faire sur Die, etc.
Merci beaucoup. Ensuite, nous allons aborder un peu le programme que vous avez établi concernant le canton du Diois avec quelques spécificité. Avant tout, ce que vous avez établi est parti d'un constat de ce qu'il se passe ou ne se passe pas sur le territoire du canton du Diois, par exemple, et qu'il y a nécessité à remède, par exemple.
On est surtout parti des compétences du département, voilà, dont la majeure partie du budget va aux solidarités et au social. Ensuite, il y a l'aménagement des routes, puis les collèges, les pompiers, des soutiens aux associations diverses et variées. Et en effet, tout le monde sait que notre territoire est plutôt pauvre. Et donc, c'est pour ça qu'on pense pour nous que la vraie première politique à engager est au terme social et au niveau des solidarités.
Alors on va peut-être amener un peu le détail de ce programme. Développer et soutenir l'agriculture paysanne.
Oui, donc en fait, bon, je n'ai pas exactement le chiffre. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a vraiment des urgences. Il faut absolument que les personnes le comprennent. Il y a des urgences agricoles, des hommes qui sont vraiment en grande détresse, qu'on a mis dans des impasses. Des impasses parce qu'on répond à des logiques... sur le bio, il faut savoir que le label bio, par exemple, ne protège pas de l'agrandissement des mesures des logiques prédatrices qui détruisent l'emploi agricole. Et sur l'investissement qui a conduit tant d'agriculteurs dans l'impasse aujourd'hui. Ils sont en alerte, ils essayent de s'exprimer en bio. Aujourd'hui, on parle de retirer le maintien à cette agriculture, des aides au maintien. Donc nous essayons de dire qu'il y a un bio à faire, mais un bio dans une logique déjà d'éthique et un marché qui permette le développement local. Donc des circuits courts, des aides à l'installation pour les jeunes. Voilà, il faut travailler avec les chambres d'agriculture, il faut travailler avec la SAFER, avec tous les acteurs. Pour permettre aux jeunes de s'installer et que l'on puisse continuer à les maintenir. Car voilà, derrière tout ça, il y a l'alimentaire. L'alimentaire, ça va avec le nombre. Le Diois augmente en population. Et cette population, il faut la nourrir. Et tout le monde a y gagné à travailler ensemble. Aujourd'hui, on propose de travailler pour des circuits courts, pour les emplois. Et puis permettre aussi, après mes collègues vous expliqueront peut-être un peu plus par rapport aux cantines scolaires dont le département a la charge pour le collège et les écoles.
Soutenir l'agriculture paysanne, comment allez-vous y prendre? Je reviens aussi sur vos propos où il y aurait une cessation de maintien aux aides pour les agricultures bio. Justement, j'en parlais hier à une candidate, c'était l'enveloppe de 5 milliards déléguée par l'Europe à la France pour l'agriculture et seulement 400 millions sont destinés au soutien, à la création, à la transition bio. Mais ceci dit, il y a une condition, c'est que ceux qui sont déjà établis en bio vont perdre effectivement cette aide au maintien et donc il y a un risque aussi que des anciens agriculteurs conventionnels qui sont passés bio et qui se retrouvent de nouveau sans aide vont peut-être forcément revenir à leur ancien statut.
Donc, oui, vous avez complètement raison, il y a vraiment deux pas en avant et quatre en arrière, si on peut dire, sur ce type de questions, parce que tout ça, le monde de l'agricole est tiraillé par plusieurs grands axes. Il y a la politique agricole commune, par exemple, qui a une grande influence sur comment l'agriculture française doit se développer. Tout ça, c'est un terme très générique. y a évidemment le bio qui aujourd'hui est ballotté avec le marché, les aides qu'on attribue à ceux qui osent le faire et ceux qui sont déjà en place. Alors, il faut vraiment aujourd'hui tout démailloter ça et revenir autant que possible à travailler avec les acteurs pour que les jeunes puissent s'installer facilement. Aujourd'hui, quand on fait une formation agricole, on n'oublie pas la journée où les banques viennent nous expliquer comment il faut acheter un tracteur à 80 000, 100 000 euros. Quoi. Donc il faut arrêter cette logique aussi où on met vraiment les agriculteurs dans l'impasse financière et dans la difficulté. Aujourd'hui, il faut permettre l'emploi dans l'agriculture. Il y a beaucoup, beaucoup de jeunes qui ont envie de reprendre l'agriculture. Les paysans disparaissent. Ils disparaissent au détriment des grandes villes qui demandent des bouches à nourrir. Il y a une sorte d'antagonisme là-dessus, sur ces phénomènes. Et il faut vraiment réagir parce que demain, ce sont les industriels, avec l'augmentation des taux en pesticides accordés par l'Europe qui augmentent en France considérablement. Donc il faut. On a fait des expérimentations en génétique sur les plants. Il faut vraiment adapter au territoire. Aujourd'hui, nous, dans la Drôme, on est en argilo-calcaire. Et il y a des types de cultures pour ce genre de sol-là. Donc il faut vraiment adapter nos cultures, il faut permettre faire ce qui pousse, donc la lavande, le lavandin, les pâmes en général, la vigne, et peut-être développer d'autres marchés, comme par exemple tout ce qui tourne autour de la laine, parce que nous avons beaucoup de bergers, et ce sont des espaces qui sont souvent attribués aux ovins, pardon. Donc, il faut réfléchir à comment, ensemble, on peut vraiment trouver les clés économiques qui nous relient sur le territoire et pouvoir permettre à tout le monde de manger.
Je passe à Messaline.
Oui, sachant que c'est peut-être important de dire aussi que cette agriculture à grande échelle, en monoculture, est pas bon écologiquement, certes, mais le bien-être des agriculteurs n'est pas bon non plus. Les agriculteurs sur une énorme parcelle tout seul avec toute sa chimie, tous ses tracteurs, ils sont en difficulté de vie à être tout seul à gérer ses exploitations. Et donc des petites cultures, des plus petites parcelles, pas de la monoculture, mais repasser à des fermes où on peut travailler sur plusieurs choses en même temps. C'est aussi une qualité de vie pour l'agriculteur qui sera donc moins malade aussi, parce que il y a eu beaucoup de cancers qui se sont développés dû à tous ces pesticides utilisés. Donc ça, c'est important de parler aussi du bien-être de l'agriculteur en lui-même.
D'ailleurs, vous abordez aussi la création de centres de santé publique pour lutter contre la désertification médicale. Ça, c'est une compétence du département d'améliorer aussi l'aspect social et médical.
Clairement, sur le canton du Diois, je pense que tout le monde en a fait l'expérience. Pour prendre un rendez-vous avec un médecin généraliste, si on vient de s'installer, la réponse est « nous n'avons plus de place ». Ce n'est pas du tout entendable, ne serait-ce que sur la ville de Die, alors je n'imagine même pas ce qui se passe dans nos petits villages isolés. En parallèle de ça, on manque de spécialistes pour voir quelqu'un qui soit un psychiatre. On n'en a qu'un seul sur le territoire, il est à Châtillon. Voilà. Si on a les dentistes aussi, en effet, merci de me le rappeler, Messaline. J'ai pas de souci avec mes dents, donc je vais pas chez le dentiste, mais je pense que c'est à peu près la même chose que pour les médecins généralistes, c'est-à-dire qu'ils ne prennent pas de nouvelles patientèles. Donc, à moins de connaître quelqu'un qui puisse nous faire rentrer par piston, entre guillemets, on doit se déplacer. J'ai une amie qui doit se déplacer à Saillant pour avoir des rendez-vous médicaux. Ce n'est pas possible. Donc, nous, en effet, ce n'est pas la compétence directe du département. Par contre, nous pensons que le département, dans sa mission de solidarité et de social, peut créer des centres médicaux pluridisciplinaires en y installant des médecins qui vont être salariés du département pour pallier à ce manque.
Je reviens un peu sur cette constatation sur le DIWA. Est-ce que parmi les autres formations de la Drôme, vous avez le même constat au niveau rural de cette disparition de la médecine ?
C'est la disparition de tous les services publics qui ont été concentrés dans les grandes agglomérations. On parle du médical, mais on parle des services des centres des impôts, des services de la poste. À Saillant, ils sont en train de se battre pour leur poste, justement, qui est voué à disparaître aussi. Saillant, c'est quand même plus de 1000 habitants, c'est pas non plus un petit village de 50 habitants. Voilà, il y a d'autres services comme Pôle emploi qui ont été envoyés à Cré. Alors, on nous installe des maisons de services publics. Pourquoi pas ? Mais ce sont des personnes qui n'ont pas la compétence et les connaissances suffisantes pour aiguiller les gens pour la CAF, pour la MSA, pour la sécurité sociale, voilà, le Pôle emploi, des conseils juridiques. On est quand même une sous-préfecture, il ne faut pas l'oublier.
Nous avions même un tribunal avant, que nous n'avons plus.
Et c'est des heures de route, parce que plus on s'écarte de Di, plus on arrive dans le haut d'Iwa, et plus c'est énormément de transport, quoi, d'heures de route pour arriver à avoir le moindre service.
Pour ça, il existe une expérimentation bien établie à Saint-Nazaire-le-Désert, c'est-à-dire un cabinet médical virtuel avec une entreprise de médecins qui sont basés à Lyon. Et donc, cela s'opère actuellement comme ça, à titre d'essai. Qu'est-ce que vous en pensez de ce principe ?
On peut entendre que ce genre de dispositif puisse exister. Moi, par contre, je suis pour le lien avec les personnes. Je ne suis pas pour cet usage du numérique absolument, que ce soit pour une consultation médicale ou dentiste ou je ne sais quoi. Il faut remettre du lien.
Non, ça reste de l'ordre de la médecine générale. Hein. Un dentiste ne peut pas procéder
oui,
à distance.
Mais si on rentre sur ça, on peut s'imaginer que dans les années à venir, comme ça se passe au Japon, il y ait des consultations beaucoup plus abouties. Pour moi, il faut remettre du lien et de l'humain avant tout. On a une proposition de mettre en place un bus de service public itinérant qui a été expérimenté vers Pont-de-Barré. Voilà, donc ce service qui serait équipé en numérique et en personnes compétentes irait dans les villages isolés pour aider les personnes qui en ont le besoin, que ce soit des aidants familiaux pour les personnes âgées, pour des personnes qui ont un dossier de retraite à remplir ou ce genre de choses, qui seront aiguillées par des personnes compétentes du département pour leur démarche administrative.
Sachant que c'est pour pallier justement aujourd'hui à ce manque de services publics, mais que nous sommes pour défendre la remise en place de ces services publics qui sont aujourd'hui démantelés. Et c'est nos anciens se sont battus pour ça. Et j'espère que nous, les nouvelles générations, on va se battre pour reprendre ce droit.
En parlant social, il y a aussi une volonté chez vous de faire revenir les éducateurs de rue et de la prévention spécialisée. Ça, c'est un constat que vous avez établi sur tout le territoire d'Iwa ou sur Di en particulier.
Oui, donc concernant les éducateurs spécialisés, tout cela tourne avant tout sur un maître mot qui s'appelle la prévention. Et nous voulons vraiment accéder, permettre aux gens d'être accompagnés dans leur démarche, quelle qu'elle soit, surtout pour les jeunes qui n'ont rien. Les jeunes ici, dans l'Iwa, s'en vont très rapidement. Il n'y a bien sûr pas de suite universitaire, mais même les jeunes ne restent pas en formation sur le territoire, ils vont toujours beaucoup plus loin. Et en termes d'activité, les jeunes, il faut le dire, ils sont chiés, quoi. Donc, il faut les aider à les accompagner dans leur projet. Ils sont jeunes, ils ont envie de faire des choses. Et nous avons envie d'appuyer ça sur, justement, les éducateurs spécialisés autour, notamment, de l'espace social, où il y a un formidable travail qui a été effectué là-dessus. Et puis bien sûr, les éducateurs spécialisés pour les gens de la rue, enfin, des accompagnants... pour les gens de la rue, pour qu'il y ait des relais, parce que nous apercevons qu'il y a une augmentation de la pauvreté, de la misère, tout le monde prend ça comme une fatalité. Non, c'est pas une fatalité d'être pauvre,
on le subit souvent. Les aléas de la vie nous amènent à une descente petit à petit et on travaille à se trouver un toit, on travaille à se trouver à manger. Et quand on travaille à ça, ben on n'a pas de temps pour faire le reste. Et quand on n'a pas de temps pour faire le reste, ben on a besoin d'aide pour une main qui nous dise ben, viens voir de ce côté, il y a ça à faire, je vais t'aider, je vais t'accompagner. Donc ces éducateurs-là, ils peuvent être aussi mis en service avec une solidarité des territoires où on peut très bien imaginer faire des relais d'accueil. Parce qu'il faut quand même savoir, sur la ville de Die, pour avoir donc travaillé comme accompagnant à l'accueil de jour du CCAS de Die, qui, pour ma part, ne mettent absolument pas les moyens pour accompagner ces personnes qui arrivent de plus en plus nombreuses. Quand il y a uniquement un seul accueil pour femmes en détresse, sur tout le canton, on a un appel aux associations pour nous aider. Donc certaines le font, on arrive à trouver parfois des petits logements, des petits endroits où, pour protéger les gens, les femmes notamment. Mais il n'y a vraiment rien de fait puisque le service des urgences pour les sans-abri l'hiver est installé dans l'accueil de camping municipal. Donc ce sont des conditions très compliquées. Ils se marchent les uns sur les autres. Il faut compter savoir qu'il y a en plus des chiens, souvent, c'est l'hiver, il fait très froid. Il y a des problèmes d'alcoolisme, évidemment, qu'on rencontre. Et ça crée beaucoup de tensions. Il y a vraiment un laisser-livrer à eux-mêmes qui est absolument indigne de l'accueil que l'on peut faire auprès de ces populations.
Il y a aussi les EHPAD. Hein. Pour vous, il y aurait un plan d'urgence à adapter sur ces structures. Quel constat avez-vous établi et quelles sont vos perspectives dans ce domaine?
Alors, nous, avant de parler des EHPAD, on considère qu'il faut favoriser et tant que possible le maintien à domicile des personnes âgées. Voilà, pour ça, il faut aider les personnes qui les aident. Et ça, ce sera plutôt Messaline qui vous en parlera parce qu'elle connaît le métier, elle l'a fait. Et à partir du moment où, pour des questions de difficultés médicales ou ce genre de choses, il n'est plus possible de maintenir les personnes à domicile, on est plutôt en faveur en soutien de MARPA, qui sont des maisons d'accueil rural pour les personnes âgées, qui accueillent entre pas plus de 20 personnes. Donc c'est quelque chose de plutôt à taille humaine, qui permet une vie collective entre les différents résidents qui n'ont pas encore trop besoin de support médical important. Et enfin, pour les personnes les plus en difficulté ou pour les Alzheimer, comme on a une partie qui est spécialisée là-dessus sur les pads de Die, on est en accord avec le fait d'aller dans les EHPAD qui soient eux aussi à taille humaine. On n'est pas sur des grosses structures. Bon, ici, ce n'est pas le cas. Et il faut soutenir les personnes qui y travaillent. Enfin, la nuit, il y a une personne, une infirmière qui surveille 80 malades à l'EHPAD de Die. Ça n'est pas possible avec une aide-soignante pour... Donc il faut mettre les moyens nécessaires pour que l'accueil soit suffisant et pour que les conditions de travail des soignants soient respectables, parce que sinon il n'y aura plus personne qui voudra travailler dans ces domaines en fait.
Oui, du coup je peux ajouter effectivement en tant que personne qui a travaillé comme aide à domicile, eh bien c'est des métiers qui ne sont pas valorisés et qui sont pourtant essentiels et qui sont de plus en plus demandés pour justement accompagner les personnes âgées. Donc si on améliore, il y a un moment, il va falloir améliorer les conditions de travail des aides à domicile, des aides ménagères, des aides soignants. Il va falloir faire une revalorisation salariale aussi. Et la désorganisation dans ces métiers-là, qui sont des métiers, rappelons-le, de femmes principalement, qui là, en plus, pendant la crise Covid, voilà, ça a encore dégradé les conditions de travail. c'est important de valoriser ces métiers-là. Il va falloir vraiment s'en occuper, parce que si on ne s'occupe pas de la cause de la problématique aujourd'hui, avec des personnes qui parfois reçoivent leur planning au dernier moment, font des kilomètres entre chaque personne, avec une population qui se plaint aujourd'hui de ne pas avoir toujours la même personne qui vient travailler chez elle, et on a besoin d'avoir confiance. Quand quelqu'un vient chez nous, a les clés de chez nous, nous voit au moins une fois par semaine, la confiance, c'est important.
Et puis, il y a aussi l'accès aux services publics. Et pour ça, vous proposez une garantie avec un accès par un bus itinérant.
Oui, il y a eu plusieurs expériences menées, mais je crois que... voilà. Donc nous, le but, c'est de vraiment d'aller jusqu'aux personnes qui ne peuvent pas se déplacer, des handicapés, les personnes à mobilité réduite, et pas que les jeunes qui n'ont pas de véhicule ou les gens tout simplement qui n'ont pas envie de venir faire une démarche à Die, ou même maintenant qu'il n'y a presque plus rien à Die, même à Cray ou beaucoup plus loin. Donc ça, c'est pas possible. Mais on a déjà fait un petit peu parlé tout à l'heure. Donc voilà, ça, tout ça, c'est vraiment en attente de la réintroduction des services publics que l'on veut au maximum partout.
Oui, donc effectivement, la région avait, comme vous l'avez précisé, mis un bus il y a cela 2 ans, en expérimentation dans toute la région de toute la Drôme. Et il s'était arrêté par le fait qu'il y ait le confinement. Ça avait l'air d'être une très belle expérience qu'il fallait encore développer. Et il me semble qu'au mois de septembre, ils vont essayer de le réintroduire. Et je pense que nous sommes complètement associés à ce type de démarche. Et pour le canton du Diois, nous mettrons les moyens pour que ce bus puisse jouer son rôle. Et peut-être aussi sur la désertification numérique. Et puis les services publics à votre porte, quoi.
Ensuite, nous allons aborder la promotion du référendum d'initiative citoyenne locale. C'est un moyen pour vous d'avoir un contact avec les citoyens, la population, de manière à peut-être réfléchir sur le devenir du territoire et la politique à tenir ou à prévoir.
Ben oui, tout à fait. C'est comment introduire plus de démocratie pour tout le monde. Donc le RIC, c'est le référendum d'initiative citoyenne, qui est demandé par beaucoup de personnes, mais là, c'est appliqué au niveau local. Je vais vous donner un exemple simple. Si par exemple 5%, le chiffre est à définir, sera peut-être 6 ou 4 ou 8% de la population du canton du Diois estime par exemple qu'il voudrait une piste cyclable qui va de Die à Luc et Châtillon, ce qui manque énormément. Là, faire du vélo entre ces deux villes, c'est totalement l'horreur. Et ben, le département serait obligé de passer cela, soit de le faire, soit de passer cela en référendum local. Et si les gens décident que c'est bon pour tout le monde, et ben, ça serait obligatoirement obligé de le faire. Je reviens sur la piste cyclable parce que là, elle s'arrête à Saillon. Donc de Saillon à Luc et Châtillon, il y en a très très peu. Là, ils sont en train un peu d'en faire, mais à minima. Mais là, pour avoir nos anciens qui allaient avant jusqu'à Saint-Romand. De Die à Saint-Roman, et ben ils y vont plus, quoi. Et la route, c'est une catastrophe, quoi. C'est super dangereux, même nos jeunes, j'en parle même pas. On connaît leur proportion à prendre des risques, des fois, nos petits jeunes. Donc voilà, je pense que ça, c'est vraiment prioritaire, quoi.
Ça, c'est pour le cyclisme, le transport. Il y a aussi d'autres thèmes ou d'autres domaines sur lesquels vous voulez aborder avec ce RICL.
Ben, en fait... tous les termes sont abordables, en fait, puisque c'est pas nous qui décidons, c'est vraiment les gens qui s'impliquent. C'est là où on change, où on passe de cette république où on peut décider de rien à une république où on peut décider de beaucoup plus de choses, car décidé par tout le monde.
Et oui, parce que consulter les gens, c'est du coup leur laisser de la place pour s'investir, pour se sentir aussi détenteur d'un pouvoir. Et aujourd'hui, s'il y a beaucoup d'abstention, c'est bien parce qu'on a dépossédé les gens de tout et aussi de leur parole, de leur position. Donc aujourd'hui, voilà, consulter les gens, c'est leur donner de la place pour s'investir. Et quand on parlait d'insoumis tout à l'heure, parce que voilà, c'est aussi la responsabilisation. On est responsable, en fait.
Cyril.
Oui, j'ajouterais que c'est vrai qu'il faut essayer de remplir toutes les démarches. Si le citoyen n'a pas la volonté d'aller consulter ses référents plus haut, enfin ses référents qui sont, comme nous l'espérons être élus en premier tour ce dimanche, il faut aussi que ces élus aillent aux gens. J'ai vu que la mairie de Dives fait exactement ça. Il y a beaucoup d'autres mairies de France qui le font, où ce sont les élus qui vont aussi vers les citoyens très régulièrement, où on a perdu aujourd'hui justement ce mélange. Autrefois, il y en avait des balles, il y avait le boucher, il y avait le boulanger, il y avait le maire, il y avait monsieur le maire, il y avait tout le monde. Tout le monde se croisait, on créait tous un joli petit monde. Aujourd'hui, tout ça s'est scindé en deux, et l'individualisme a prévalu, il faut aussi que ça aille dans tous les sens, en fait. Et puis qu'il y ait des relations entre les gens des quartiers, que ça puisse remonter dans les affaires administratives des instances, quoi, voilà, et ainsi la collaboration de tous les agents territoriaux aussi, quoi.
Il y a d'autres domaines aussi.
Le département lui-même a la possibilité de soutenir tous les projets que les individus, les associations peuvent porter. Et par le biais de subventions, il peut soutenir les industries, les projets divers et variés qui lui sont présentés. Donc tout le monde sait qu'une économie sociale et solidaire, donc une économie circulaire, crée de l'emploi sur place et ce n'est pas délocalisable. Donc c'est tout à fait dans le sens d'un projet social avec vocation à créer des emplois et écologique, bien sûr.
Il y a un sujet aussi que vous abordez, c'est la clause de remboursement des subventions pour cause de licenciement ou de délocalisation. Est-ce que vous avez pu constater dans le canton du Diois cet aspect-là ?
On peut dire que là, notre canton a le vent en poupe pour tout ce qui est production de plantes médicinales. Voilà, on a tous connaissance de grandes entreprises dans le domaine, l'Herbier du Diois, Nateva... Phytosan, la Drôme provençale qui allait s'installer à Saillant. Et ces plantes médicinales servent à la production de produits pharmaceutiques, d'huiles essentielles et autres préparations type tisane. Voilà. Et c'est la santé naturelle, c'est du bio, puisque on est le premier territoire bio sur cet aspect-là au niveau de la production agricole. Et je pense qu'en tant que conseiller départemental, on doit être très vigilant vis-à-vis de ce qui se passe sur cette industrie-là, qui commence à attirer de grands groupes. Il y a des grands groupes qui ont racheté ces entreprises-là localement. Et il faut veiller à ce que les conditions salariales d'emploi soient correctes pour les salariés, qu'il n'y ait pas de plan social derrière qui se prépare Et comme on le dit, on sera présent si le cas peut se passer, qu'il y ait des suppressions de postes ou des délocalisations. On sera là en soutien des salariés face aux envies parfois un petit peu trop grandissantes des dirigeants.
Nous avons aussi les revendications des pompiers. Les revendications des pompiers sur les centres d'incendie et de secours qui sont une compétence du département. Quelle est actuellement la problématique ?
Oui, tout à fait. Alors, les centres de secours, d'incendie et de secours, les pompiers, quoi. Donc, on en a rencontré quelques-uns et on a été très, très bien reçus. On doit dire qu'on est resté un grand moment. Je n'ai pas cité une caserne du Diois. Après avoir eu un entretien de plus d'une heure et demie avec la personne qui nous a fait visiter tous les locaux, nous avait fait voir les camions de pompiers, les voitures... Donc je dirais qu'ils ont des revendications, effectivement, mais qui ne sont pas celles matérielles. Il manque cruellement d'autre chose, c'est de l'humain, en fait. Ils sont vraiment, comme ils nous disaient, à quoi bon avoir 3-4 véhicules de plus ? De toute façon, on n'a pas assez de monde pour les faire partir. Donc à partir de là, comme les pompiers sont directement de la compétence du département, il y a des freins. Et il faut vraiment rajouter de l'humain, et pour ça, c'est assez facile, on pense.
Laura ?
Oui. Alors, pour préciser, il y a deux types de pompiers. Il y a les pompiers professionnels et les pompiers volontaires. La majorité des pompiers professionnels sont dans les zones urbaines. Donc les centres d'intervention de secours ne fonctionnent qu'avec des volontaires. Adi, il y a 43 pompiers volontaires pour la caserne. Enfin, pour le centre d'intervention de secours, c'est pas les casernes. Et sur les 43, au final, il faudrait à minima 3 personnes à chaque fois qui se soient mises volontaires pour qu'une intervention puisse se passer. Il faut, voilà. Sinon, après, c'est d'autres centres d'intervention qui prennent la place, puisqu'il faut 3 personnes minimum. Seulement, parmi ces pompiers volontaires, il y en a 2 qui travaillent pour la DDT, il y en a 1 qui travaille pour la communauté de communes, il y en a 5 qui travaillent à l'hôpital, et après d'autres dans des entreprises privées. Il y a des conventions qui sont passées entre les employeurs et les pompiers, donc qui doivent pouvoir se détacher de leur temps horaire s'il y a une intervention et tout ça. Et le département ne joue pas le jeu, alors que les pompiers sont eux-mêmes les compétences du département. Donc là, la personne qu'on a rencontrée qui nous a exposé la situation a dit clairement « Je ne vais pas aller mettre la pression sur des patrons qui sont de l'ordre du privé, alors que même au niveau public, les instances et les collectivités publiques ne jouent pas le jeu de permettre le détachement de ces pompiers volontaires sur leur temps. »
Donc effectivement, de ce côté-là, je pense que le département, après là, c'est aussi des lois nationales, on doit appuyer là-dessus, payer plus, mieux.
Il y a à la cité scolaire, il y a aussi une expérimentation qui se fait là depuis un an pour justement former des jeunes pompiers volontaires. Il y en a certains qui s'engageront peut-être derrière, mais en tout cas l'idée est bonne puisque ça leur apprend une dynamique du sport, de la cohésion, du travail en groupe, ce genre de choses. Et nous avons appris qu'il y a eu un changement de recteur au niveau de l'académie et que cela ne serait peut-être plus maintenu l'année prochaine. Donc en tant que conseillers départementaux, si nous sommes élus, nous veillerons à ce que cela soit maintenu à la cité scolaire de Dieppe.
Et nous terminons, l'heure est passée. Je vous donne aussi les rendez-vous que vous avez établis, par exemple demain, jeudi, ce soir, à 17h. C'est dommage, ça sera un peu tard, puisque... Par contre, on peut parler du marché de Châtillon et Luc, on dit quoi, le vendredi 18 juin, oui.
Et aussi disponible sur Facebook, vous avez eu la vidéo de notre réunion publique que nous avons faite au quartier Cocos dimanche dernier.
Sur Internet, c'est la page Facebook que les auditeurs peuvent découvrir pour les candidats de cette liste que vous représentez.
Oui, c'est une page Facebook commune à l'ensemble des cantons du Diois, donc Ensemble à gauche pour la Drôme.
Eh bien, je vous remercie en tout cas Laura Marchelli, Cyril Nodin, Jacques Suchel et Messaline Mogard d'être venus nous parler de votre engagement pour cette élection départementale 2021.
Merci.
Au revoir.
Merci.
Au revoir.
Okay. Goodbye, everyone.